Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être des nôtres. Quelques jours seulement après s'être évadé de la prison centrale de Bamako, Mohamed Ali Ag Wassouden vient d'être arrêté. À cette occasion, le Grand Dialogue consacre ses trois quarts d'heure à cette nouvelle. Les trois points qui seront débattus dans ce débat, les circonstances de l'arrestation, les faiblesses du monde carcéral au Mali et cette question, faut-il reformer la politique carcérale du Mali? Pour nous aider à comprendre, trois invités, commandant Modibo Nama Traoré en cours de route, par téléphone, Cheikh Oumar Diallo, écrivain, et également par téléphone, Valérie Nanambao du CICR. Merci et d'être des nôtres. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Douara est à la technique. Fortement soupçonné d'être impliqué dans le rapt des Français Serge Lazarevitch et Philippe Verdon en novembre 2011 à Ombouri, dans la région de Gao, les forces spéciales des services de renseignement du Mali ont arrêté Mohamed Ali Ag Wassouden. Selon les responsables maliens, il y a eu des jets de grenades et des échanges de coups de feu entre Ag Wassouden et les forces spéciales au moment de l'arrestation. Sa compagne a été tuée lors de ces échanges de coups de feu, a-t-on appris de sources sécuritaires. Alors, la première question, elle est pour Cheikh Oumar Diallo, écrivain. Cheikh Oumar, vous avez écrit un livre justement sur le terrorisme. Alors, Mohamed se trouve être impliqué dans des actions terroristes. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que cette arrestation représente aujourd'hui aux yeux de la justice malienne?
Eh bien, je pense déjà, merci pour cette invitation. Je pense que cette arrestation est extrêmement importante parce que il s'agit d'un élément qui est impliqué dans l'enlèvement de personnes étrangères sur le territoire malien et qui donc avait bénéficié justement de l'appui de certains groupuscules terroristes d'après les informations que nous avons reçues par voie de presse et par d'autres canaux. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il n'avait pas été repris, aurait laissé planer un grand doute sur la capacité de l'État malien à résoudre les questions d'ordre judiciaire qui entourent cette crise multidimensionnelle que nous vivons.
Modibo Nama Traoré, commandant et membre également de la cellule de communication de l'armée, vient de faire son entrée dans ce studio. Alors, mon commandant, est-ce qu'on peut revenir sur les conditions, les circonstances de l'arrestation de Mohamed Ali Ag Wassouden?
Oui, effectivement. Et bonjour les auditeurs. Monsieur le commandant Modibo Nama Traoré, officier des affaires publiques de défense et de sécurité du Mali. Je suis plutôt à la présidence qu'au niveau de forces armées de sécurité. Donc, je suis le chargé de communication au niveau en fait, de la présidence de la République.
D'accord.
Mais, et aspect militaire de sécurité.
Okay.
Donc, en fait, l'interpellation ou l'arrestation quand même de Mohamed Ali Ag Wassouden a eu lieu dans la soirée, bon, on peut dire dans la soirée d'hier, mais sinon, c'est fait ce matin, précisément à 2h30
du matin.
Donc, par les forces spéciales de sécurité, qui ont eu à l'arrêter au niveau de Amdalaï, au rond-point du Flamboyant, pour ceux qui connaissent bien Bamako, voilà justement. Donc, il y a un immeuble qui est abrité par une boulangerie dont je tairai volontiers le nom, et un pressing. Donc derrière il y a le logement, donc je pense qu'il avait fait il s'était réfugié là-bas hier vers 22h. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce n'est pas de façon spontanée, c'est un long processus qui a abouti à son arrestation depuis les événements du 16 juin, c'est-à-dire l'évasion des prisonniers à la maison d'arrêt de Bamako. Il s'est trouvé les éléments du service de renseignement. Ils sont partis par le fait que, parce que déjà il faut rappeler que Wassouden est un élément qui avait été arrêté à Gao par les éléments de la sécurité d'État et qui les avaient gardés en leur sein. Ça s'est fait le 24 novembre 2011, avant d'engager la procédure judiciaire et le remettre au niveau de la justice, qu'il a incarcéré à la prison civile. Donc, de cette période jusqu'à la PC, c'est un terroriste. Et nous avons une cellule antiterroriste au niveau du service. Et cette cellule-là a continué à le suivre. Donc, ils se sont rendus compte que, constamment, c'est en fait une dame. Une dame qu'on appelle, c'est une compatriote, mais il s'est avéré que c'est sa fiancée. Donc, je n'ai pas son nom à la bouche. Mais c'est elle qui l'entretenait dehors.
Étant en prison.
Et voilà, qui l'amène à manger. Cette dame-là est logée à Badalabou, précisément. Donc, qui l'amène à manger, qui l'amène tout ce qu'il avait besoin. Et finalement, quand il a reçu une grosse somme, notamment 15 millions, de la part d'un de ses oncles, qui est un lieutenant de Yad Agali, le leader de Ansardine. Donc, ça lui a permis de faire beaucoup de choses dans la prison. Et à partir de là, il recevait régulièrement des présents, même des ordinateurs et même...
Étant en prison,
même la télévision. Et dans la prison, il a pris contact avec un certain Soumaïla Dambélé dit Soumi.
Lui aussi étant...
Lui, il est condamné à mort. C'est un bandit de grand chemin. Il a été arrêté pour association de malfaiteurs, assassinat, vol qualifié. Et il y a beaucoup d'actes quand même à son encontre. Donc, ils ont préparé cette sortie de prison. Et quand il s'est évadé, il s'est trouvé que la dame là était là, devant la prison, au moment de l'évasion.
Le même
jour. Et c'est dans sa voiture que les deux éléments, Soumi et Wadosen, sont montés. Et ce véhicule portait une immatriculation étrangère, un pays de la sous-région. Donc
c'était un coup bien préparé.
Le coup était bien préparé. Donc maintenant, on s'est dit, les officiers enquêteurs se sont dit, bon, est-ce que nous devons aller le chercher du côté des Touaregs ou bien du côté des Bambara, grosso modo, quoi. Donc, en fait, ils se sont dit, c'est quelqu'un qui est un ex-élément de la garde nationale. Il parle Bambara, il parle français et il parle Tamasheq. Et c'est quelqu'un qui n'a pas d'amis Touareg, en fait. Depuis qu'il était à la garde, il ne s'encoquinait qu'avec des gardes noirs, des Bambara, des Sudistes en quelque sorte.
Donc, on est obligé de le dire.
Voilà justement, des Sudistes en quelque sorte. Donc maintenant, ils ont dit, nous, on a ratissé large, parce que nous sommes aussitôt l'évasion faite, nous avons fermé les frontières. Nous avons mis en branle tous les éléments des forces de sécurité le long des frontières et un peu à l'intérieur du pays. Maintenant, qu'est-ce qu'il s'agissait de faire? Il s'agissait de suivre la fille. Donc, la fille étant localisée, les éléments ont continué à le suivre. Mais c'est trouvé que la fille téléphone à quelqu'un au Burkina Faso et cette personne rendait compte à l'autre là, et à Bamako ici. Et de fil en aiguille, voilà justement, c'est fait hier matin. Hier matin, nos éléments ont eu l'information que Soumi, le bandit, était dans une maison à Sébinikourou. Quand vous traversez le pont de Wewenko, deux carrés à gauche, vous virez. Et c'est là où il logeait, en fait. Donc, et les éléments ont commencé à repérer. Dans le repérage, Soumi a compris que lui, il était cuit. Et Soumi a fui. Quand Soumi a fui, le monsieur était resté seul. C'est à ce moment que le monsieur a appelé la fille pour qu'il vienne le chercher et qu'il lui trouve une nouvelle cachette. Donc,
Donc ce qui a alerté les forces de sécurité.
Voilà, les officiers, les filataires quand même de la service de renseignement.
Modibo, restez là-dessus. Nous allons du côté de Cheikh Oumar Diallo. Alors Cheikh Oumar, tous les prisonniers évadés n'ont pas été arrêtés. Est-ce que les forces de sécurité ont plutôt concentré les efforts autour de la personne de Mohamed Ali Agouassouden au lieu que ce soit une ronde collective autour de l'ensemble des prisonniers? Votre avis là-dessus?
Je pense que légitimement, effectivement, le détenu Wadoussen était celui qui représentait le plus grand enjeu parmi ceux qui ont fui la prison, qui ont échappé à la détention. Mais je pense qu'il était important pour, à mon avis, hein, bien sûr, pour les services de renseignement et les forces de sécurité, de réussir à récupérer l'ensemble de ceux qui avaient réussi à s'évader. Parce que, bien évidemment, l'enjeu était certes celui de M. Ouassouden, mais il y avait également des éléments comme l'a révélé le responsable de la communication, M. Traoré. Il y avait des éléments qui étaient condamnés à mort pour des faits très graves, notamment des assassinats, des vols qualifiés, des faits qui vraiment méritent qu'on les retrouve pour qu'on puisse leur faire respecter la sentence qui leur a été donnée en justice. Mais je pense qu'effectivement, il y a eu une très grande concentration des efforts sur l'individu Ouassouden parce qu'effectivement, il représente quelqu'un qui a commis un acte de caractère terroriste et qui se retrouvait dans la nature sans que l'on puisse lui mettre la main dessus. Maintenant, effectivement, les recoupements ont montré qu'il n'avait pas beaucoup, beaucoup de relations avec les communautés Touareg installées au Mali, mais cela n'empêche qu'effectivement, il a entretenu des relations avec des éléments terroristes avec lesquels il a travaillé pour l'enlèvement, la séquestration et la cachette de ces différentes personnes qui ont été enlevées. Donc il représentait l'enjeu le plus grand parce que ce n'était pas simplement un enjeu de sécurité intérieure, c'était également un enjeu diplomatique qui venait mêler les familles des personnes qui ont été enlevées et qui ont été séquestrées et qui jusqu'à présent restent entre les mains de groupuscules terroristes. Donc je pense qu'il était important de récupérer
d'abord, Mohamed Ali Ouassouden. Ah, ok. Alors, cet avis est compris. Nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec ce débat.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondel.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foco, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tchessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti, sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz. Radio Djamana de Djéné, 91 MHz. Et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana 91.4 MHz. Alfarouk de Tombouctou 98 MHz. Issaber de Niafunké 96.3 MHz.
Très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre sur les différentes radios partenaires du Studio Tamani. Le débat du jour porte sur la capture de Mohamed Ali Agouassouden, impliqué dans le rapt des deux Français enlevés dans le nord à Ombori, dans la région de Gao. Alors, nous recevons comme invité le commandant Modibo Nama Traoré, par téléphone Cheikh Oumar Diallo, écrivain. Alors, Mohamed Ali Agouassouden a été arrêté. La France gardait un œil averti sur cette évasion car Mohamed Ali est accusé de faire partie des kidnappeurs des Français Serge Lazarevitch et Philippe Verdon en novembre 2011 à Ombori, dans la région de Gao. Les forces françaises ont-elles joué un rôle dans cette arrestation, commandant Modibo Nama Traoré?
Non, pas du tout. Les forces françaises n'ont pas joué un rôle dans cette arrestation parce que c'est un dossier que nous avons déjà entre nos mains et c'était quelque chose aussi, il fallait que nous le fassions pour au moins sauver notre honneur. Parce qu'on avait commencé à nous traîner dans la boue, notamment les médias, pour dire que non, ce sont nos autorités qui ont fait exprès pour le faire fuir. Non, il n'en était rien. Le gars, il est parti. Et pour vous dire, il a certes des complicités. Bon, c'est vrai, nous sommes dans un contexte où il suffit seulement quelqu'un qui a des millions par devers lui et peut tout faire maintenant au Mali. Donc, non, ils n'ont pas aidé dans la capture de Mohamed Ago Vosseden, parce que déjà, il n'était pas parvenu à sortir. C'est vrai qu'on avait mis tous les mécanismes sécuritaires en branle. Même Interpol avait été mis en branle. Donc, je pense sincèrement que le mérite revient d'abord aux forces de sécurité maliennes. Donc, pour continuer, quand les éléments l'ont suivi, et il est venu, il a été logé dans cet appartement-là, donc où il y avait trois personnes. Maintenant, on l'a localisé, identifié, et ensuite, et le renseignement a fait appel à la force spéciale. Donc, et la force spéciale est venue. Et quand il a compris, d'abord, les voisins, il fallait les sécuriser, on a réveiller un peu les voisins un à un. On les a sécurisés parce qu'on savait qu'il pouvait être armé. Et effectivement, il avait un PA et beaucoup suffisamment de cartouches. Donc, quand il a compris maintenant que ceux-là qui étaient là étaient venus le chercher, lui, il est rentré dans la chambre avec la fille. Et les trois autres qui les accompagnaient ont voulu fuir. Ceux-ci ont été récupérés. Mais
ces trois faisaient partie des prisonniers évadés.
Non, ils font pas partie des prisonniers évadés. Mais les enquêtes vont démontrer si toutefois ce sont des gens quand même qui ont participé à des délits qui n'auraient pas été. Là, pour l'instant, quand même, on interrompt volontairement leur nom, puisqu'on n'a pas vu d'abord d'acte. On attend le résultat de l'enquête pour cela. Maintenant, il a commencé à tirer.
Sur les forces de sécurité.
Donc, ceux-ci aussi ont fait des tirs de sommation pour lui permettre d'épuiser justement sa dotation en munitions. Parce qu'on savait quand même qu'il n'a pas eu le temps
de se préparer.
Donc il était fait comme un rat dans son trou. Et maintenant, il se servait de la fille comme bouclier. Quand il sortait avec la fille, il tirait. Et ensuite, il entrait.
Donc vous estimez que la fille était tenue en otage?
Non, c'est la fille là qui l'a menée. Mais il se servait de cette dernière comme bouclier. C'est pour cela qu'un coup de tir, un coup l'a eu. Cette fille-là.
Alors, donc, pouvait-on éviter cela, Mouribou Nama Traoré?
Non, il était difficile d'éviter cela dans la mesure où lui-même, quand il a fini ses munitions, il a mis le feu à la chambre où il était. Il a tout brûlé. Même si la fille était brûlée, au moment où les éléments ne rentrent pour lui les récupérer, il s'est trouvé que la fille aussi était complètement brûlée, calcinée. Donc, même si elle était blessée, on pouvait la sauver. Mais malheureusement, vraiment, la fille n'a pas pu être sauvée. Et lui, il a été arrêté. Avec seulement des égratignures.
Alors, nous avons Cheikh Oumar Diallo en ligne. Cheikh Oumar, est-ce que ce n'est pas la première évasion? On se rappelle, la dernière grande évasion, c'était avec le terroriste tunisien. Je parle sous le contrôle de Mouribou Nama Traoré, le terroriste tunisien qui avait tenté de faire exploser un engin devant l'ambassade de France. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième évasion et la deuxième capture. Est-ce que les services de renseignement du Mali montrent là leur véritable capacité à pouvoir circonscrire à ce genre de situation?
Eh bien, je pense qu'effectivement, il faut déjà saluer vraiment le courage, l'engagement et la détermination des
hommes. Voilà les aléas de la technique. Cheikh Oumar Diallo nous a lâchés. Le téléphone vient de lâcher au dernier moment. Alors, Modibo, nous restons toujours avec vous. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles des prisonniers évadés? Vous pensez qu'ils seront arrêtés prochainement?
Non, ils vont.
Vous êtes optimiste?
Je suis optimiste parce que même s'ils dépassaient les frontières, il y a l'Interpol qui est là pour les suivre quand même dans
les autres pays.
Voilà, dans les autres pays. Mais cela dit, imaginez, avant-hier seulement, lundi, la police de Bougouni a pu arrêter Konaté.
Konaté qui est ?
Konaté, Moussa Konaté, qui faisait partie des bandits qui ont braqué Western Union et la faculté des sciences juridiques. Mmh. Ça, c'était en février tout récemment. Ils sont deux Ivoiriens. L'un même et l'autre, lui, il a fui. Donc, Konaté a été récupéré. Donc, ça veut dire que partout, le maillage est fait. Et les forces de sécurité, quand on les a envoyés, on a envoyé partout quand même le signalement et les photos et autres. Vous avez même vu des photos dans les journaux du Ward Sen. Donc, cela va nous permettre quand même d'avoir l'aide de la population, l'aide de bonne volonté et surtout faciliter un peu le travail de la police, de la gendarmerie, tout dans, sur les axes routiers. Donc, je pense qu'il y a de fortes chances quand même. Tous ces ciels vont venir. Et puis, traditionnellement, par expérience, nous savons que ces gens-là aussi, ils aiment bien être à prison qu'à à l'extérieur. Ils se sentent gênés.
Okay. Alors, nous avons un invité qui vient de nous rejoindre, mais toujours par téléphone, Maître Brema Kone de l'AMDH. Maître, aujourd'hui, nous parlons d'un prisonnier qui vient d'être arrêté. Tout ceci fait suite à beaucoup de faits. Les prisons maliennes souffrent aujourd'hui de pléthore. Quel est votre avis sur ce monde carcéral du Mali?
Je pense que la situation des prisons au Mali est très inquiétante, surtout à cette heure où nous traversons une crise d'une grande dimension. Au-delà de cette surpopulation carcérale, c'est les conditions de sécurité qui laissent à désirer. Et ajouter à cela les mauvaises pratiques qui persistent encore au niveau de cette prison, notamment qui sont le fait aussi de certains agents, des gardiens de prison, qui se livrent à toutes sortes de spéculations autour de prisonniers, notamment le fait de prendre de l'argent avec des citoyens sans aucun contrôle rigoureux et les laisser accéder librement au centre de détention, alors qu'au préalable, il fallait quand même un permis de communiquer délivré par un juge ou alors par le procureur. Mais malheureusement, on assiste à de telles scènes, moyennant quelques billets d'argent, et des prisonniers dangereux qui sont laissés nuitamment libres pour aller passer la nuit en ville et qui reviennent passer la journée à la maison d'arrêt. Et pendant ce temps d'absence de la prison, ils peuvent commettre autre chose. Vous dire que le système carcéral malien souffre aujourd'hui de tous ces problèmes et qu'il faut aujourd'hui régler dans le meilleur délai possible. Sinon, l'évasion de ce terroriste, c'est vrai que c'est une prison qui ne répond pas à certaines normes par rapport à la gravité de certains crimes ou à la dangerosité de certains criminels. Mais je pense qu'à tout cela, il y a aussi le comportement de l'homme qu'il faut ajouter.
Alors, Maître Brema Kone, vous êtes de l'AMDH. La surpopulation carcérale peut-elle trouver solution aujourd'hui quand on sait que la construction de prisons souffre d'un mythe aujourd'hui au Mali qui dit que celui qui construit une prison séjournera en prison? Est-ce que cet argument est sérieux et qu'est-ce que vous faites comme plaidoyer aujourd'hui à l'État malien pour que les infrastructures puissent être améliorées?
C'est un plaidoyer que nous allons poursuivre. On l'a fait de tout temps. Effectivement, on a été confronté à ce mythe qui ne nous a jamais été opposé officiellement. Mais à travers le silence que nous avons constaté, après les engagements pris, nous sommes rendus compte que ce mythe est en train de nous mener vers une situation assez débordante. Mais je pense qu'il faut dépasser ce mythe et faire face aux réalités que nous abordons aujourd'hui. Vous savez, l'exemple de la prison de Bamako, elle a été construite depuis les années 1951 pour pensionnaires. Mais de nos jours, vous trouverez que la prison dépasse plus de 1700, 1800 prisonniers. Et quand vous voyez les cellules, ben, c'est incroyable. Il y a certaines cellules qui comptent plus de 40 personnes entassées. Donc une telle promiscuité peut entraîner des maladies graves, c'est-à-dire la contamination et puis d'autres comportements antimoraux. Franchement, je pense que ce plaidoyer, nous pensons qu'il est légitime et que les autorités doivent prendre les dispositions pour construire une prison digne de ce nom qui réponde aux normes internationales qui engagent le Mali, notamment les règles minimales des Nations Unies sur les conditions de détention.
Merci beaucoup, Maître Brema Kone. Vous restez avec nous tout au long de ce débat, vous ainsi que Cheikh Oumar Diallo, qui est également en ligne avec nous. Nous avons Modibo Nama Traoré ici dans ce studio. Nous allons observer quelques secondes de pause avant la troisième et dernière partie de cette émission, si la technique répond présente.
Studio Tamani, Urtel, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, radio Benkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Cette émission est disponible en direct sur notre site web www.studiotamani.org. Le Grand Dialogue parle aujourd'hui de la capture de Mohamed Ali Ag Wassouden, évadé le 16 juin dernier de la prison centrale de Bamako. Cette troisième partie est consacrée à la question suivante. Faut-il reformer aujourd'hui la politique carcérale du Mali, le système carcéral du Mali? Comme invité, nous avons Modibo Nama Traoré, chargé de communication du domaine militaire à la présidence de la République malienne. Par téléphone, Cheikh Oumar Diallo, écrivain, et Maître Brema Kone de l'AMDH. Alors, nous avons Cheikh Oumar Diallo qui est écrivain. Cheikh Oumar, quel est votre avis sur le monde carcéral aujourd'hui du Mali? Le Mali se plaint aujourd'hui de pléthore dans les prisons, pendant qu'au même moment, on abrite des prisonniers étrangers à Koulikoro. Est-ce que cela n'est pas un paradoxe?
Tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'à ce titre, il est important que l'on revoie cette politique carcérale nationale afin qu'elle puisse mieux coller aux réalités des enjeux du moment. Parce que je pense que nous avons un décalage énorme qui existe, notamment si on le prend dans les grandes agglomérations comme Bamako, un décalage qui existe entre les bandits de grand chemin et les terroristes, mais aussi ceux qui sont en attente de jugement. Il y a presque un mélange des genres qui fait que tous ceux qui se retrouvent dans cet univers carcéral ne sont pas forcément encouragés à se réinsérer dans la société dans des conditions acceptables. Et dans le même temps, je pense qu'il ne peut pas y avoir de politique carcérale qui soit une politique carcérale efficace tant qu'il n'y aura pas une politique judiciaire également qui donne les moyens à la justice de pouvoir, dans des délais raisonnables, juger les gens qui sont en attente de procès. Parce que quand on se retrouve avec des éléments qui passent 6 mois, 7 mois, pour certains même qui sont même oubliés en prison, ça c'est incroyable de voir que dans un pays on peut se retrouver avec des détenus qui sont oubliés et dont le procès est repoussé de semaine en semaine, de mois en mois, jusqu'à arriver des fois à des années. Et je pense que c'est très dangereux. C'est très dangereux pour les éléments qui se retrouvent dans ce milieu-là, parce qu'une fois sortis de ce milieu carcéral, s'ils arrivent un jour à en sortir, eh bien, ils retomberont nécessairement dans la délinquance, parce qu'il n'y a aucun moyen d'assurer leur réinsertion une fois sortis. Donc, il faut trouver le moyen de pouvoir conjuguer une politique qui permette, premièrement, d'augmenter le nombre des prisons afin de trouver une solution à la surpopulation et d'écarter les éléments qui sont les plus dangereux de ceux qui ne représentent pas réellement un danger très important pour la société, et dans le même temps trouver les moyens de pouvoir réellement améliorer les conditions de la justice afin qu'elle soit plus rapide dans la gestion des dossiers de justice et qu'on ne se retrouve pas avec des gens qui se mélangent alors qu'ils n'ont en réalité pas grand-chose à faire ensemble.
Alors, Modibo, permettez-nous de comprendre ce qui se passe comme mode de gestion dans nos prisons, dans les prisons maliennes. Vous êtes spécialiste en matière de sécurité, car étant de l'armée, dites-nous comment est-ce que tout cela est géré.
Bon, effectivement, il faut dire qu'il y a depuis un certain temps un changement de tutelle. Les prisons relèvent plutôt du ministère de la Justice que du département de la Sécurité. Donc, je pense sincèrement qu'il y a aussi un problème de formation. C'est vrai, nous avons eu des gardiens de un nouveau corps appelé gardiens de prison qui sont formés un peu, certains sur l'État et d'autres à Dakar et ailleurs. Mais la formation n'est pas tout à fait complète. Comme on le dit, auparavant, c'était la garde nationale qui s'occupait aussi de la gestion des prisons. Mais maintenant, petit à petit, la garde, on a enlevé la garde, on a confié la tutelle de la prison, notamment la prison, à la justice, Central. Pour raison d'humanisation des prisons. C'est vrai, humanisation certes, mais il faut que ceux-là aussi qui sont en prison ne soient pas des dangers permanents pour ceux qui sont dehors. Il y a ça. Donc, il y a un déficit de professionnalisme. Et je pense que c'est comme ça qu'il va falloir combler les gaps. Par exemple, au niveau de la protection civile, il y a la gendarmerie qui est là, qui est entrée petit à petit, qui essaie petit à petit de former, de donner d'autres notions, notamment de police judiciaire, d'autres notions de sécurité aux éléments de la protection civile qui sont formés. Donc c'est ça, il faut quand même que la formation des gardiens de prison soit beaucoup plus rigoureuse, qu'ils participent même à la formation commune de base, comme au sein de l'armée ou au sein de la gendarmerie ou de la police. Donc c'est un peu ça, et parce que là, il se dit structure civile, il n'y a pas de punition en tant que telle, mais quand on sait que, par exemple, un sentinelle qui est devant le génie militaire, si on voit qu'il a déposé son fusil et il s'est arrêté bras croisés, il a commis une faute et il prend une sanction de 30 à 45 jours de prison. Donc lui ne le fera pas. Parce qu'il sait, même si vous n'êtes pas de son corps et que vous êtes son supérieur de passage, vous le voyez, vous le punissez. Il prend 30 ou 45 jours de prison.
Ce qui n'est pas le cas dans...
Ce qui n'est pas le cas, parce que là, ce sont les sanctions civiles qui viennent, blâme, et suspension, ainsi de suite. On ne doit pas arriver à ça. Il faut qu'il sache que c'est comme ça. Ça doit être vertical d'abord pour qu'il se corrige. Parce que les punitions, c'est pour corriger les disciplines. Voilà, justement, c'est un peu ça. Donc, je pense qu'on a parlé de... Aujourd'hui, même Maître l'a dit, il y a 2023 personnes à la prison centrale, à la maison d'arrêt de Bamako, où il y avait 2023 personnes avant l'évasion.
La capacité d'accueil officielle, c'est combien? C'est en deçà.
C'est en deçà, la capacité d'accueil n'atteint pas les milliers. Donc, c'est vrai qu'il y a eu cette politique de création des prisons un peu partout à l'intérieur. Mais je pense qu'il y a de sérieux problèmes par rapport à ça, mais par rapport même à la gestion même de la prison.
Alors, Modibo, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les services de renseignement ont pu déceler un certain nombre d'anomalies, notamment le fait que M. Wassoudaine reçoit en prison des biens comme des ordinateurs, des télévisions. Est-ce que tout cela est permis en prison?
Pas du tout. Ce n'est pas permis. Ce n'est pas du tout permis.
Mais parce que est-ce qu'il n'y a pas de défaillance à ce niveau-là aussi?
Mais non, il y a défaillance à tous les niveaux. Parce que ici, les prisonniers, par exemple, comment Wassoudaine est sorti? Comment il est sorti? Le premier garde qui est rentré, qui a suivi les plombiers, parce qu'ils ont essayé de simuler une panne de plomberie pour qu'on fasse appel au plombier. Le plombier est venu, il était suivi par un garde. Il a d'abord ce garde-là était déjà, il y avait une sympathie ténale entre le garde et les prisonniers. Le garde a sorti son arme, il l'a déposé par terre et l'autre l'a pris son arme. C'est comme ça que ça s'est passé.
Donc il n'y a pas eu dissimulation d'armes dans
la nourriture? Non, c'est ça la réalité. Il a pris son arme. Il dit non, donne-moi mon arme, c'est son chemin, mais il est sorti. Et quand il est sorti, il a commencé à tirer, mais il n'a pas tué ce monsieur-là. Quand il est sorti, il y a malheureusement l'adjudant-chef, Sofara, qui avec son fusil, une arme individuelle, un fusil et une carabine chinoise, qui même était enrayée, donc qui a voulu l'arrêter. Et il a tiré sur ce dernier. C'est celui-là qui en a fait les frais. Et les autres se sont cachés.
Donc il y a eu complicité à l'intérieur?
Non, il y a eu complicité à l'intérieur. On a amené tout. Et c'est là, ça a été signalé.
Y a-t-il eu des arrestations à ce niveau?
Il n'y a pas eu d'arrestation parce que nous les alertons. Même par rapport à avant l'évasion, nos services ont signalé. Le service de renseignement a dit à 11h, faites extrêmement attention, il doit y avoir des mouvements aujourd'hui et au niveau de la maison d'arrêt. Donc, je pense qu'ils n'ont pas pris ça en compte, ils ont regardé, ils n'ont pas pris ça en compte.
Qui n'a
donc,
pas pris ça en compte
ceux qui doivent gérer la prison. Donc, il y a une légèreté réelle et qu'on doit quand même essayer de punir.
Alors aujourd'hui, Cheikh Oumar Diallo, vous venez de l'entendre, il y a des alertes qui sont des alertes sont évoquées, il n'y a pas de prise en compte de l'autre côté. Et comment est-ce qu'on peut faire pour concilier ces deux aspects?
Je pense que voilà, c'est justement un des aspects que j'abordais dans Illusion perdue, c'est le dernier ouvrage. Je pense qu'il est important aujourd'hui de revoir le système d'information gouvernementale de sorte à ce qu'il y ait une plus grande fluidité entre l'information qui circule et que les hiérarchies différentes, des services différents aussi également, puissent voir en temps réel, eux aussi, ce qui circule comme information entre les différents services. Cela permettra vraiment d'accélérer les réponses qui sont données à toutes les sollicitations qui viennent de part et d'autre. Parce que, comme l'a dit le commandant Mouribou Nama Traoré, je pense que tout le monde, même sur les réseaux sociaux, et ça c'est un autre sujet, mais même sur les réseaux sociaux, on a vu des courriers datant du mois d'avril et venant de la prison centrale, du régisseur de la prison, qui demandait, qui alertait depuis le mois d'avril sur la possibilité d'une attaque dans la prison et sur le besoin imminent de rééquiper la prison en termes d'équipement de vidéosurveillance, en termes d'armement, en termes de menottes. On demandait même des menottes. Vous imaginez à quel point cette prison centrale est démunie. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un besoin de revoir la politique, parce que la politique carcérale est oubliée, est complètement oubliée. À partir du moment où on se dit qu'ils sont en prison, on se dit, bon, c'est déjà géré, ils sont en prison. Et quand la prison vient demander des moyens, on se dit, bon, c'est la prison, c'est la prison. Et c'est peut-être un peu trop délaissé, d'une part. Donc il faut revoir ce niveau-là, et dans le même temps, s'assurer que dans le niveau du système d'information gouvernementale, que l'on puisse mettre en œuvre un moyen qui permette d'instaurer un système intranet, je ne sais pas, j'ai un certain nombre de propositions à ce sujet-là, mais que l'on mette un service d'information gouvernementale chargé de centraliser l'information qui vient des différents services et qui permette justement une plus grande fluidité et qui assure que derrière les gens qui reçoivent des sollicitations, qui reçoivent des informations, sachent qu'ils sont observés et qu'il y a des supérieurs qui observent l'information qui circule, les courriers qui partent et qui viennent, et qui s'attendent à ce que des réponses rapides soient données à toutes les sollicitations de tous les services. Et ça demande vraiment une réflexion en profondeur à ce niveau-là, et ça demande à ce qu'on y mette les moyens humains, matériels et financiers, parce que je pense que ce type de service d'information gouvernementale ne peut pas se faire tant que nous n'y mettons pas les gens qu'il faut.
Alors,
il y a un véritable déficit de moyens humains, matériels et financiers à ce niveau-là qui fait que la communication est difficilement possible entre les services eux-mêmes et entre l'État et le citoyen.
Merci beaucoup, Cheikh Oumar Diallo. Je rappelle que vous êtes écrivain et vous avez écrit beaucoup de livres sur le terrorisme. Alors, nous avons Maître Brema Kone qui est avec nous. Alors, on me fait remarquer de l'autre côté de la baie vitrée que c'est un seul livre pour le moment, mais d'autres vont suivre. Alors, Maître Brema Kone, vous êtes également avec nous. Nous vous savons très pointu sur les aspects de droits de l'homme dans les prisons. Est-ce que vous êtes au courant de cette forme de mafia qui existe dans les prisons où certains prisonniers bénéficient de beaucoup de largesses? Et quel est votre plaidoyer dans ce sens?
Moi, je suis au centre de cette situation parce que je suis avocat de profession et depuis plus de 27 ans, je fréquente les prisons au Mali, surtout avec les activités aussi des droits de l'homme. Moi, je le dis, je partage entièrement les propos avancés par les deux interlocuteurs. Mais je dirais que au bout du rouleau, on se retrouve confronté au comportement de l'homme. J'ai décrié le fait que, c'est vrai, les prisons sont engorgées, il est vrai, mais même si on mettait en place tous ces moyens humains, matériels et financiers, si les comportements ne changeaient pas, nous allons toujours assister à certains comportements qui ne sont pas de nature à sécuriser les citoyens, aussi bien à l'intérieur des prisons que ceux qui sont à l'extérieur.
Merci beaucoup.
Comme l'a dit le... Oui.
Merci beaucoup, Maître Bremakone. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. Je m'excuse de vous interrompre là-dessus. Merci beaucoup pour votre participation. Je rappelle que vous avez pris ce débat en vol. Alors, Modibo Nama Traoré, vous êtes du service de communication, de renseignement à la présidence. Dites-nous deux mots qui puissent rassurer la population aujourd'hui par rapport à cette évasion, à ce problème des évadés du 16 juin, qui puissent rassurer la population.
Non, que la population se rassure. Les forces de sécurité sont en train quand même d'employer les grands moyens pour au moins essayer de récupérer tous ces bandits, pas seulement les terroristes, mais tous les grands bandits, les bandits des grands chemins qui sont partis, et qui sont dans la nature. Et ça a commencé avant-hier, on a amené d'autres et je pense que ça continue d'ici là. Et tous ceux-ci vont revenir.
Merci beaucoup, Modibo Nama. C'est tout pour cette émission. Je vous rappelle qu'elle était consacrée à l'arrestation de Mohamed Ali Agouassoudène, impliqué dans le rapt des deux Français, Serge Lazarevitch et Philippe Verdon, en novembre 2011 à Rombouri, dans la région de Gao. Les trois points de ce débat, les voici. Les circonstances de l'arrestation, les faiblesses du monde carcéral au Mali, faut-il reformer la politique carcérale du Mali, nos invités qui nous ont aidés à comprendre cette actualité, le commandant Modibo Nama Traoré, service de communication, chargé des questions militaires à la présidence. Par téléphone, nous avions Cheikh Oumar Diallo, écrivain, et également Bremakone de l'AMDH. Merci à vous, messieurs, pour votre participation. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Djouara et Nouhoum Diré étaient à la technique. Ousmane Diadje Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Maundi.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.